Nous sommes en train de faire une étude sur la nouvelle nature qu'on a reçue en Jésus, puis la nouvelle vie qui en découle, parce que le Seigneur a entrepris du travail dans nos vies, puis il veut nous changer, nous transformer, nous amener à la stature de Jésus. J'espère qu'on s'en rappelle. Il y en a-tu qui sentent que le Seigneur est en train de les transformer?
Oui.
Qu'ils le voient. Qui se disent, oui, il y a quelque chose qui se passe, ma vie change, il y a des choses qui s'améliorent, oui, des fois, ça n'enlève pas les problèmes de la vie, mais disons qu'on fait face aux problèmes avec une pensée différente, avec la réaction du Seigneur. On est en train de regarder certains points que le Seigneur veut changer dans nos vies parce qu'il veut nous amener à être comme Jésus. Parvenir à maturité, là, ce qu'on va voir aujourd'hui, un des points, c'est devenir mature, c'est se responsabiliser face à l'Église. On va voir comment est-ce que le Seigneur lui voit les choses quand on parle de l'Église, de ce que lui, comment est-ce qu'il voit ça, les choses. Parvenir à maturité, c'est de voir et vivre l'Église avec les yeux de Jésus. Est-ce que vous pensez que c'est important aux yeux de Jésus, l'Église? Êtes-vous déjà arrêté? Est-ce que Jésus aime ça quand les chrétiens sont rassemblés? Quand ils vont à l'Église, comme que nous autres on dit à l'Église, on pense à la bâtisse, mais c'est pas la bâtisse l'Église, c'est le groupement des personnes qui sont assises dedans, qui sommes la vraie, véritable Église du Seigneur. Est-ce que vous pensez que Dieu aime son Église?
Oui.
Est-ce que Dieu a des plans pour son Église?
Oui.
Est-ce que Dieu a des plans pour chacun de nous?
Oui.
Si oui, ça veut dire qu'il a les regards sur nous. Quand on est assis à l'Église, il y a de quoi nous communiquer. Puis devenir mature, c'est se responsabiliser face à l'Église. Parce qu'on grandit dans le Seigneur. Si je sais que Jésus tient à cœur son Église, puis il met l'accent dans son Église, il a même donné sa vie pour l'Église, si Jésus est comme ça, puis je sais que moi, je dois être transformé pour devenir comme Jésus, mais je vais aimer l'Église comme Jésus aime son Église.
Amen.
Amen. Il me semble qu'il n'y a pas gros d'amen. On doit aimer l'Église comme Jésus aime son Église. C'est le but à atteindre. On veut être transformé pour ressembler à Jésus. Savez-vous, j'ai dit la semaine passée, parce qu'on parlait de l'adoration, que Jésus avait créé l'univers en entier pour se trouver des adorateurs. Des gens qui étaient pour l'adorer en esprit, en vérité. Parce que c'est de tels adorateurs que le Père demande. Ça veut dire qu'il a créé l'univers, il a créé les anges, puis les anges l'adoraient en esprit, en vérité, sauf d'une gang qui s'est rebellée, mais le deux tiers des anges sont encore devant lui pour l'adorer. Il a créé le monde humain, où ce qu'on est présentement, dans le but d'avoir des adorateurs. Puis là, je vous donne un autre point, une autre révélation. Il a créé tout l'univers dans le but de former son Église. L'univers entier physique a été créé parce que Dieu est en train de se faire une assemblée de choisis, de gens sortis de pour faire partie du royaume de Dieu. C'est ça son Église. C'était le but de la création. Puis c'est sûr qu'à travers ces gens-là, il s'en sert comme pour l'adorer. Mais il a créé l'univers dans le but à ce qu'il puisse recruter des gens selon des critères de sélection. On a été élus par des critères que lui a décidé quels étaient les critères pour l'élection. C'est à quoi les critères qu'il demande pour pouvoir être un élu? Mais il nous demande d'avoir la foi dans son fils Jésus, la foi dans le sacrifice qui a été accompli. Une foi assez grande qu'on va s'engager en se repentant, puis on va l'accepter, mais une foi assez grande que notre vie va changer parce qu'on va se repentir, puis qu'il va nous assister par son Saint-Esprit dans cette relation-là pour être une nouvelle créature. C'est la foi qui sauve. Puis ça, c'est le critère de sélection pour être un élu. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. c'est pas toutes les appelés qui vont rentrer parce qu'ils n'ont pas répondu aux critères pour devenir un élu. Voyez-vous? Fait que Dieu est en train, il a créé l'univers pour se faire un peuple de personnes qui vont l'appartenir, lui appartenir, qui vont former son Église. Il y a une seule Église, le Seigneur. On voit ça exprimé différemment dans Jean chapitre 10, le verset 14 à 16. Jésus dit, « Je suis le bon berger. » Il est le berger. Il dit, « Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Là, il y a une relation entre une brebis du Seigneur et son berger. On parle d'une vie de communion. Il dit, « Comme le Père me connaît, je connais le Père. » Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Puis il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le berger, c'est Jésus. Le seul troupeau, c'est ceux qui ont répondu à la voix de Jésus et qui connaissent Jésus, qui le suivent. C'est ça qu'il nous dit dans ce passage-là. Fait que, ça fait partie, tous ceux qui font partie de sa bergerie, mais ils font partie de son Église, qui est son corps. On est les membres de son corps, on fait partie de son Église, on est dans sa bergerie. Puis Jésus dit, il va avoir juste un troupeau, puis un seul berger. Lui, il est le berger, puis juste un troupeau, c'est son Église. Amen. Amen. Fait que la création entière était dans le but de recruter des gens, puis ils appellent. Les brebis, ils les appellent, puis il y a certaines brebis qui ont entendu l'appel, qui vont répondre à l'appel, puis qui vont le suivre, puis qui vont développer cette relation. C'est les élus. C'est nous qui sommes là, assis, à le suivre. Amen.
Amen.
Tous les efforts, puis les combats de Jésus étaient pour son Église. Quand Jésus est venu, c'était dans le but de venir personnellement, venez nous enseigner la voie. Quand il est venu aussi, il est venu pour que personnellement s'occuper du problème du péché. Fallait qu'il soit réglé, puis il n'y avait aucun sacrifice dans l'Ancienne Alliance qui pouvait réellement nous pardonner puis nous rendre parfaits. Lui, il est venu, puis il a dit, me voici pour accomplir ta volonté. Il fallait qu'il vive un mode de vie de sainteté sans péché, pour être un candidat, pour pouvoir racheter les autres. C'est ce qu'il a fait. Il a accompli cette vie de sans péché-là. Puis ça, on appelle ça la sanctification. Puis c'est ce que Jésus a expliqué dans Jean 17, le verset 19. Il dit, « Je me sanctifie moi-même pour eux. » En parlant des membres de son Église. Ça veut dire, si Jésus forçait dans sa vie pour combattre contre le péché, il faisait pas pour lui, il faisait pour nous. Parce qu'il est venu vivre cette vie de sainteté pour nous. Il dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Fait que le fait que Jésus venait accomplir cette vie parfaite, puis son sacrifice à la croix, ça nous a permis à nous d'être sanctifiés. Fait que Jésus a tout accompli ce qui était nécessaire, obligatoire, pour nous racheter, puis de nous rendre dignes de faire partie de son Église. Merci Seigneur. Même si Jésus, après sa mort, il est monté au ciel, c'est ce qu'on voit dans les Actes, il jasait avec ses disciples, faisait 40 jours qu'il apparaissait à ses disciples, puis il jasait avec eux, poups, il a commencé à monter. Puis là, les disciples ont regardé s'en aller au ciel. Puis Jésus a disparu d'un nuage. Puis là, il y a un ange qui est apparu, puis il a dit aux disciples, « Ce Jésus-là que vous avez vu monter, il va revenir un jour de la même manière. » Là, il aura pu se dire, « Ouais, mais là, on va se retrouver tout seul pour faire ce qu'on a à faire. On a la grande commission à faire, d'aller faire des nations des disciples. » Puis là, Jésus s'en va. Mais même si Jésus est monté, Jésus est encore là, présent auprès de ses disciples pour les aider à bâtir son Église. Parce que Jésus, il est omniprésent. Il est maintenant, chaque jour, avec ses disciples, dans le but de bâtir son Église. Jésus, il a dit à Pierre, Il dit, je te dis que tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Jésus est encore en train de travailler aujourd'hui pour bâtir son Église, pour ajouter de nouveaux membres, mais aussi pour la bâtir, son Église. Chaque membre a besoin d'être construit pour être une habitation de Dieu en esprit et le demeurer. Voyez-vous, il y a un travail que la nouvelle naissance va faire en nous pour nous changer, nous transformer, pour nous modeler, pour nous amener à être comme Jésus, pour qu'on puisse vivre la présence de Dieu sans restriction. Parce que ça peut arriver qu'un chrétien qui ne marche pas conforme, qui attriste le Saint-Esprit, puis il perd de l'efficacité dans sa vie. Mais il faut qu'on recherche à être rempli, puis Jésus nous aide à ce qu'on marche rempli de l'Esprit. Il est en train de bâtir son Église. Vous sentez-vous être en train d'être bâti? Il nous bâtit. Moi, je le réalise, comment est-ce que Dieu, il m'amène dans des choses à comprendre que je comprenais pas ça, là, X, 7 ans. On apprend, on grandit, on se fortifie dans le Seigneur, on s'affermit, on devient de plus en plus comme Jésus. Mais quand ce changement-là, il s'opère, parce que Jésus est en train de nous bâtir. Il est en train de nous construire. Il est encore là, autour de nous, puis il nous accompagne. Il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Fait qu'il est là. Il est là. Jésus est ici, au milieu de nous, dans son Église. Il a les regards sur son Église, puis à travers la planète, c'est la même affaire. Il a son regard sur l'Église, puis il connaît ses brebis, puis il est en train de les bâtir. Un jour, il va venir nous chercher. En attendant, il travaille avec nous dans cette construction. Suite après sa mort, là, après que Jésus soit mort puis qu'il soit parti, ça dit que les disciples, dans Marc 16, 20, ils disent, s'en allèrent prêcher partout. Les disciples, ils sont mis à prêcher partout. Puis ça dit, le Seigneur travaillait avec eux. Même si Jésus est monté au ciel, même si le monde ne voyait pas Jésus avec eux, le Seigneur travaillait avec eux pour bâtir son Église. Il dit travailler avec eux, puis il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Voyez-vous, Jésus travaille encore aujourd'hui. Chaque fois qu'on voit un exaucement de prière, chaque fois qu'on voit une guérison, une délivrance, des miracles, mais c'est Jésus qui est là en train de bâtir son Église. Merci Seigneur. Je crois que la vision de Jésus est que chacun trouve sa place et se responsabilise face à l'Église. Parce que si on grandit dans le Seigneur et qu'on s'en vient à avoir le même regard pour l'Église que Jésus avait pour son Église, mais on va changer dans notre perception, mais on va changer aussi dans notre implication. On va se responsabiliser face à l'Église, puis on va dire, « Hey, c'est l'Église du Seigneur, là. Chacune des brebis qui sont là, faut que je réagisse de façon à travailler pour bâtir avec Jésus. Je suis là pour bâtir l'Église avec Jésus. Amen. Vous êtes en train de bâtir avec Jésus. Peut-être qu'on est assis, puis qu'on réalise pas, puis qu'on le laisse faire tout seul. » Ou peut-être qu'on dit, hey, moi tout, j'ai quelque chose à faire là-dedans, puis là, on comprend ce qui est quoi mon rôle, puis là, je vais dire, faut que je fasse de quoi, puis là, on intervient, puis on s'offre, puis on travaille avec Jésus pour bâtir l'Église. Parce que Jésus, il a à cœur son Église, puis il veut que tout le monde ait à cœur, la même façon que lui a à cœur. Si tout le monde le comprend, on va avoir une Église en feu, dans la joie, puis dans être en train, tout le monde, de servir le Seigneur. Qu'est-ce que l'Église pour Dieu? Excusez-le. J'ai un chat dans la gorge. C'est pas un rhume, c'est l'inconditionné, probablement. Ou l'humidité. Qu'est-ce que l'Église pour Dieu? Si je vais avoir la pensée changée, puis ma manière d'être changée face à l'Église, il faut que je comprenne à quoi que ça sert une Église. On n'est pas ici juste pour le divertissement que ça peut procurer. Oui, on a un divertissement, on chante des chants, on tape du pied, on a du plaisir de voir les gens, puis de saluer. Oui, il y a un côté positif sur le social, mais c'est plus que ça, l'Église. au point que Jésus donne sa vie pour son Église, ça doit être quelque chose un petit peu plus que ça. Dans les Actes des apôtres, on voit l'Église type, la première Église, là, dans Actes 2, 41. Qu'est-ce que les premiers disciples faisaient quand ils se sont convertis? Ils disent, ceux qui acceptèrent sa parole, ils furent baptisés. Puis en ce jour-là, le nombre des disciples a augmenté de 3000 âmes. Ça dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, puis dans les prières. Il s'est passé une dynamique, là. Il s'est passé quelque chose que l'Église est en mouvement. Il persévérait dans quelque chose qui fait partie de l'Église. Une construction de l'Église, c'est l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, manger ensemble, puis prier ensemble. C'est ça qui fait la dynamique ou la puissance ou le moteur d'une Église en feu. C'est ce qui s'est passé au premier, à la première Église. 3000 personnes se sont converties d'un coup sec. Fait que si on y va avec les enseignements de la Bible pour comprendre à quoi que ça sert un petit peu plus, mais l'Église est premièrement une école, un centre de formation, un centre d'information. On est là pour apprendre, puis des fois se faire rappeler. Parce que quand ça fait 35 ans, tu vas t'asseoir dans une église, t'en as appris un peu, c'est juste que ça te fait rappeler les choses. Mais on se maintient dans la pensée de Dieu. Fait que quand Jésus, dans Matthieu 28, le verset 19 à 20, ça c'est quand il a donné la grande commission à ses disciples, il dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Puis il dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Fait que quand on est assis ici, on est en train de vivre l'Église. Jésus est au milieu de nous. Il a dit que je suis avec vous tous les jours. Fait qu'il est là, assis à quelque part, avec vous, en vous. Il nous voit aller, il nous écoute penser. Il nous écoute quand on parle à notre voisin. Toutes les jokes qu'on peut faire, les critiques. Puis là, on analyse ce qu'on entend. Parce qu'il a dit à ses disciples, enseignez-leur à observer. Ça veut dire que dans l'Église, ça sert à enseigner ce que Jésus ou les apôtres ont annoncé. Fait que les messages sont donnés semaine après semaine, puis le Seigneur est en train de bâtir son Église. C'est à ça qu'a sert son Église, à former des gens obéissants. Parce qu'il ne nous a pas dit juste partager les connaissances, il a dit enseignez-leur à observer. C'est des gens qui mettent en pratique qu'on recherche, que Jésus recherche. Des gens qui vont mettre en pratique ce qu'ils entendent. Des gens qui vont devenir eux-mêmes des gens qui appliquent ce que Jésus a déjà appliqué. Jésus ne nous demande pas de faire ce que lui n'a pas fait. Il nous demande d'être comme lui. Fait qu'il nous a montré l'exemple en toutes choses. Il n'a fait aucun péché. Fait qu'il veut qu'on soit comme lui. Ça veut dire qu'il veut qu'on obéisse à ses enseignements pour arriver à être comme lui. J'ai du travail à faire dans ma vie. Le Seigneur a beaucoup de travail à faire en moi, puis il en a à faire en vous. Mais il est là à chaque réunion, puis il travaille à travers les enseignements qu'on reçoit. C'est des méditations de sa parole, puis ça nous fait grandir. Ça nous libère. Ça nous change de notre manière de penser. On est renouvelé dans notre intelligence. Puis là, on pense de plus en plus comme Jésus aura pensé. On va parler comme de plus en plus comme Jésus aura parlé. Pourquoi? Parce qu'on est entretenu par les enseignements que Jésus nous a dit de transmettre. Fait que il parle à travers de moi présentement pour vous aider à grandir, pour vous fortifier dans le Seigneur, puis vous encourager. J'espère que vous êtes encouragés. Mais il est là. Puis peu importe le canal qu'il prend, là, il m'utilise moins ici, mais il utilise plein d'autres gens à travers la planète qui sont là pour transmettre le message avec la force qu'ils ont, qui leur a été communiquée. Puis c'est notre travail de transmettre les informations. Ça s'arrête pas là. Vous aussi, vous êtes assis dans l'Église. Vous avez des choses à transmettre. Vous savez des choses de Dieu. C'est votre devoir de travailler et de transmettre ça aux autres. On doit apprendre à veiller les uns sur les autres et à s'exhorter les uns les autres. Fait que c'est un travail d'équipe, tout ensemble, pour aller recevoir l'instruction de la parole. Il rentre un nouveau. Il s'assit là pour la première fois. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va écouter, puis il va apprendre de tout le tour. Tout, pas juste du pasteur. Il apprend des choses dans la prêche, il va apprendre des choses le moment que vous allez y faire un sourire, que vous allez l'accueillir, que vous allez le serrer dans vos bras, que vous allez prier pour lui, que vous allez lui donner des paroles pour l'encourager. Les gens vont apprendre la vie de Jésus. Puis ils vont la vivre, ils vont sentir qu'il y a quelque chose là. Ils vont dire, Dieu est réellement au milieu de vous. C'est ça qu'on veut. Fait que l'Église est une école, dans le jargon québécois. C'est l'école de Dieu. Il a voulu que ça se passe comme cela. Des fois, on dit, ils font pas ça de la bonne manière. Ben, transmettre des enseignements, je connais pas beaucoup de méthodes à part que, comme qu'on voit à l'école, il y a un professeur qui explique des affaires, puis les autres écrivent, puis ils posent des questions. C'est un peu l'interaction de la transmission des connaissances, ça se passe pas mal comme ça partout. Oui, on pourrait rendre ça plus agréable, peut-être, je parlais 10 minutes, faire un chant, parler un autre 10 minutes, faire un chant, ou pas faire de parlage, pas en tout, puis de faire juste la musique. Il va manquer de quoi. Voyez-vous, on n'a pas le choix de prendre du temps. Puis il faut condenser le temps parce que tout le monde a des obligations. Fait que c'est de même l'Église aujourd'hui. Puis ça fait longtemps que c'est dans un système qui est bâti de cette façon-là. Les premiers disciples, c'était de même, puis c'est encore de même aujourd'hui. Ils se réunissaient dans le temple, dans la synagogue ou dans les maisons, que ça dit. Puis ils partageaient l'enseignement, ils priaient ensemble. C'est le même modèle qu'on a encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Il y a les anciens dans l'Église. Les anciens sont les professeurs avec l'aide du Saint-Esprit. Puis la matière qu'on a enseignée, c'est la doctrine de Christ, l'enseignement de Jésus. Expliquer ce que Jésus a fait, comprendre pourquoi il l'a fait, puis comprendre aussi les choses qu'il nous demande de mettre en pratique. Ça fait partie de la vie de l'Église, la raison d'être de l'Église. On arrêterait d'avoir une Église, ben on dirait, on va aller dans une autre Église. Tu peux pas dire, tu vas pas dans une Église. Tu vas pas dans une Église, tu vas dans l'autre. Mais il faut que tu ailles dans une Église. Ça fait partie du plan de Dieu. Parce qu'on a à recevoir, puis on a à donner aux frères et sœurs. Dans Actes 2, 42, le verset que j'ai lu de la première Église, ça dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. » C'est pas quelque chose de temporaire pendant une couple de semaines, puis après ça, on s'en retourne puis on oublie tout. Il faut persévérer, être à la recherche. Aujourd'hui, là, c'est accessible partout, par les médias, l'Internet, la télévision, la radio. La parole de Dieu est prêchée partout. Fait qu'on peut se nourrir de la connaissance de Dieu, mais il faut faire attention, parce que c'est pas toutes des gens qui sont de Dieu qui vont vous enseigner aujourd'hui. Il y en a qui disent des toutes sortes d'affaires qui n'ont pas de bon sens. Un deuxième point à quoi qu'elle sert l'Église, c'est un centre d'adoration pour Dieu. L'Église est le lieu où on se rencontre ensemble pour venir louer, glorifier, célébrer, chanter les louanges à Dieu. Que ce soit les chants de la louange, de l'adoration, des actions de grâce, ça fait partie des réunions, puis elles sont faites dans le but de glorifier Dieu. Quand on chante des chants, c'est pas juste pour faire un peu d'exercice. Oui, ça, on peut en faire en même temps, mais c'est pas le but. Le but, c'est qu'on se concentre sur ces paroles, qu'on les chante à Dieu, ces chants-là. Puis quand on confesse son nom, il dit, c'est ça qu'il cherche, d'offrir un sacrifice à Dieu. Il dit, le fruit de lèvres qui confesse son nom. Dieu aime ça, entendre nos expressions d'action de grâce. Merci Seigneur pour telle affaire. Merci. Puis il veut qu'on rende grâce en toute chose. Fait qu'on apprend à louer Dieu, à chanter des chants à Dieu, parce que des fois, on ne sait pas quoi dire, mais le chant, lui, il y a des beaux sujets dans les chants qui nous amènent à élever notre esprit vers Dieu, à chanter ces chants-là à Dieu. Puis c'était de même depuis le début. Tu regardes l'histoire avec Moïse, ils ont composé des chants avec les événements qu'il est en train de vivre. Puis là, spontanément, ils composent un chant, puis là, tout le peuple chantait avec Moïse. Des fois, c'est un autre qui compose un chant. Puis les recueils, les psaumes, là, c'est un recueil de 150 chants. Mais apparemment que Salomon en a recomposé, je ne sais pas combien, qu'on n'a pas. Il y a des chants, là, ça a toujours fait partie de la vie du peuple de Dieu. C'est pas nouveau ce qu'on fait là. Puis quand on le fait, c'est dans le but de glorifier Dieu. Fait que quand on vient à l'Église, on entend les enseignements, mais on a un temps ensemble à prendre le temps de louer Dieu, glorifier Dieu. Combien de personnes le font tout seul chez eux? Pas pareil. Pas pareil. Des fois, on n'en fait pas de chant chez nous parce que tu n'as pas le contexte. Quand tu étais à l'Église, par exemple, c'est le temps. Il y a un contexte. On est ensemble, les musiciens sont là. Puis gloire à Dieu pour les musiciens. Puis on chante, puis on loue le Seigneur, puis tout le monde est emporté dans la présence de Dieu. Dans Hébreux, chapitre 2, le verset 12, ça dit, ça c'est une parole inspirée par le Saint-Esprit, il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Ça, c'est comme si ça serait Jésus qui est en train de parler. J'annoncerai ton nom à mes frères, puis je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Ça veut dire que Jésus est ici. Quand que le prédicateur prêche le nom de Dieu, c'est Jésus qui est en train de prêcher le nom de Dieu aux frères. Puis il dit, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Ça veut dire Jésus est assis avec nous, en train de chanter nos chants, en train de célébrer son Père. Jésus est là, en train de travailler puis bâtir son Église. C'est pour ça que ça fait partie du plan de Dieu qu'on soit en train de le faire. Amen. Un troisième point à quoi que ça sert l'Église. Mais l'Église, c'est le corps de Christ. Je ne rentrerai pas en profondeur sur ça, mais on fait partie de son corps sur la terre. C'est comme si Jésus est encore présent physiquement, mais à travers son Église. Il y a un seul corps, une seule Église qui est son corps, puis il y en a une seule à travers la planète, mais on est tous, nous, une partie de ce corps-là. Je l'ai déjà dit, je ne suis pas à moi tout seul tout le corps. Il y en a qui disent, ouais, je suis le corps de Jésus, je suis l'Église, je n'ai pas besoin d'aller à l'Église. Ça ne marche pas de même. Tu n'es pas le corps ou l'Église à toi tout seul. Tu es le corps parce que tu es regroupé avec d'autres chrétiens. On est tous les membres de son corps. Amen. Moi, mon bras gauche, il faut qu'il soit connecté avec mon corps, puis le bras droit avec. S'il y en a un des deux qui dit, oh, moi, je fais partie du corps, je m'en vais tout seul, il ne fonctionnera pas tout seul longtemps. Le corps, il manque, il n'y aura plus le sang qui va couler en lui. Tout ce que le corps aura pu y donner, ça ne sera plus là, puis le bras qui a décidé de faire sa vie tout seul, il va tomber à terre, puis il va sécher. Il faut qu'on reste connecté au corps. Ça fait partie du plan de Dieu. Ensemble, il dit, on s'édifie, puis on forme un solide assemblage. Puis on s'édifie toute la gang ensemble en tirant notre force des uns des autres. Puis on est important. Il n'y en a pas un qui n'est pas important. On fait toute partie du corps de Jésus. Puis c'est l'Église qui est son corps. Quand on est ensemble, nous sommes le corps rassemblé, puis on est en train d'être bâti parce qu'on tire notre force les uns des autres. On est un solide assemblage. Il n'y a rien de pire qu'une église qui est divisée, puis que le monde critique, puis le monde chiale, puis le monde il parle dans le dos, puis tout le monde se déteste. C'est pas de Dieu. C'est pas ça que Dieu veut pantoute. La vision de Dieu, ou le but qu'on devrait dire, la maturité chrétienne fait que tu réalises l'importance du corps, puis tu vas réaliser ta responsabilité de faire en sorte que le corps grandisse, puis s'édifie, puis s'unisse, puis qu'on soit connecté ensemble. C'est la vision de Jésus, puis ça devrait être notre vision à nous de devenir comme cela. L'Église est le corps de Christ, puis nous sommes chacun de nous ses membres. Nous sommes aussi appelés sa famille. Fait que l'Église, c'est sa famille. Le frère que je vois, là, puis j'aime pas la face, mais c'est le frère de Jésus, la même chose que moi, je suis son frère. Il est aussi important pour Jésus, celui que j'aime pas la face, que moi-même, je suis important pour Jésus. Des fois, on se pense bon, puis on méprise les autres, puis on se pense meilleur. Puis nous autres, on l'a l'affaire, puis eux autres l'ont pas l'affaire, puis on pense que Jésus nous aimera plus qu'il aime l'autre. Ça marche pas de même, c'est pas la vision de Dieu. Ça, c'est un manque de maturité pour arriver à cette conclusion-là. Grandir dans le Seigneur, c'est que Jésus, il est mort pour lui aussi. Autant qu'il est mort pour moi. Puis pourquoi qu'il me favoriserait moi plus que lui? Jésus aime autant lui qu'il m'aime. Puis je dois chercher même à faire plaisir à celui que Jésus aime. Parce que c'est son frère. La même chose que moi, je suis son frère. On est toute la même famille, puis on a tout le même Dieu, Père. Dans Hébreux, chapitre 2, le verset 11, ça nous dit, « Celui qui sanctifie, ça c'est Jésus, et ceux qui sont sanctifiés, c'est nous, sont tous issus d'un seul. » Fait que Jésus est issu du Père, puis si moi je suis devenu un enfant de Dieu, je suis issu du Père. Le Père a investi en moi pour que je le sois. Fait que Jésus, il vient du Père, puis nous aussi, on est connectés avec le Père. Puis Jésus n'a pas honte de nous appeler frères à cause de cela. Parce que Dieu nous a adoptés. On est la famille de Dieu. Tout ensemble, quand on se réunit, nous sommes une famille des frères et sœurs de Jésus. C'est pas beau, ça? Qui dit famille, dit fraternité. Une famille, c'est supposé de fraterniser ensemble. C'est supposé d'être content de se voir comme des frères. C'est pour ça que dans Actes 2, 48, la première église, ça dit, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. » L'Église, c'est la place pour communier fraternellement. Ça veut dire entre frères et sœurs. On est la famille, la communion fraternelle, c'est de profiter les uns des autres. Je suis là pour les autres sont là pour moi. Ensemble, nous sommes à l'Église, une fraternité, puis on marche en communion ensemble. C'est pas beau, ça? Puis la fraction du pain aussi, que ça dit, comme il persévérait dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Ça veut dire, en plus d'être ensemble, ils mangeaient ensemble. Moi, je trouve ça super quand on prend du temps et qu'on mange une bonne soupe avec du bon pain frais. Ensemble, on a des bons moments. Ça nous bénit. On est la famille de Dieu. Amen. Un autre point où qu'on regarde que ce qui est l'Église... L'Église, c'est un centre d'entraînement et de combat spirituel. Parce que dans les réunions, il y a la dimension de la prière, puis il peut y avoir des jeûnes. Puis même l'évangélisation, c'est du combat spirituel. On combat contre les puissances du mal. Fait que l'Église, c'est un centre d'entraînement. Quand les chrétiens sont ensemble, peut-être qu'on ne persévérera pas à prier. Si on sera tout seul pendant un an, deux ans, trois ans. Mais le fait que tu vas à l'église puis qu'il y en a d'autres autour de toi qui prient, puis t'embarques avec eux, c'est un centre d'entraînement. On est là pour prier ensemble. On prend du temps, on partage nos besoins de prière, on prie pour les besoins, on apprend à combattre dans la prière. C'est la première place que Dieu veut qu'on combatte. Il y a la prière puis l'évangélisation. C'est comme deux dimensions de combat qu'on fait. Puis l'Église, c'est là pour nous, qu'ensemble, qu'on développe notre nature combative. Le Saint-Esprit veut nous amener à cela. Oui, on n'est pas tous égaux avec les mêmes dons, mais tout le monde pourrait prier. Bon Dieu, prier, là. Prier, c'est demander. Si vous êtes capable de demander quelque chose à votre mari ou de demander quelque chose à votre femme, vous êtes capable de demander quelque chose à Dieu. C'est pas plus dur que ça. Ils sont capables d'aller au dépanneur puis demander quelque chose au commis. Avez-vous telle affaire? Ils te le donnent, tu le payes. Mais tu as réussi une communication. Mais dans l'Église, c'est ça, on apprend à développer notre communication avec Dieu, en parlant à Dieu, en lui remettant tous nos besoins. C'est du combat spirituel, puis on apprend à combattre. Fait que les modules pratiques, c'est la prière, le jeûne, l'évangélisation. On voit que les premiers disciples, ils étaient là-dedans. Dans Actes 2, 42 à 47, là, il dit, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, la fraction du pain, et dans les prières. » Ils persévéraient ensemble à prier. Ça fait partie de la vie d'Église. Ça sert à ça, l'Église. Que les gens sont ensemble, puis ils persévèrent dans la prière, parce que ils sont ensemble. Ça nous fortifie, ça nous booste, ça nous donne une vision des choses qu'on doit prier. Puis il y a l'évangélisation. Jésus en parle dans Matthieu 28, le verset 19. Il dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » On a le mandat de faire tous nos efforts pour convertir les gens. Le Saint-Esprit fait son œuvre, mais nous aussi, on fait de l'œuvre. On distribue la parole de Dieu, on sème la parole, que ce soit du porte-à-porte, que ce soit par des pamphlets. On travaille avec le Seigneur pour bâtir son Église. Sentez-vous ce qu'on est en train de bâtir son Église avec lui? Puis que lui nous utilise aussi pour y arriver. L'Église, en fin de compte, c'est un centre d'entraide pour que chacun aide les autres à cheminer puis à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça qui est notre but. Seul, on ne sera peut-être pas encouragé à le faire jusqu'au bout. Mais ensemble, l'Église est là pour qu'on persévère ensemble, on s'encourage ensemble, on prie ensemble, on loue Dieu ensemble, on écoute la parole ensemble, puis on va évangéliser ensemble, on fait l'œuvre de Dieu ensemble. Merci Seigneur. Il faut devenir mature par le Saint-Esprit afin de plus être centré que sur nos propres intérêts, mais sur ceux du Seigneur. Parce qu'il y a là aussi un gros problème, pourquoi que les gens ne sont pas impliqués dans l'Église. Ils pensent trop à leurs affaires personnelles. Tout le monde en a des besoins personnels. Mais il ne faut pas que ça passe en premier. Jésus dit, cherche premièrement le royaume et sa justice. Tout le reste va être donné. Il a dit qu'il s'en occuperait. Cherche premièrement le royaume. Où est-ce que je vois le royaume en premier ici dans ma vie, moi? Je le vois dans l'Église. C'est le royaume de Dieu. C'est les habitants du royaume de Dieu qui sont devant moi. Ouvrez vos yeux, regardez-vous les uns les autres, puis dites, c'est le royaume de Dieu qui m'entoure, les habitants du royaume. Ben oui, il faut prendre conscience de ça. Quand je parle à un d'entre vous, je suis en train de parler à un concitoyen des saints, gens de la maison de Dieu, un membre du royaume de Dieu, du peuple de Dieu, un des rachetés de l'Éternel, un des membres de son corps, un des membres de son Église, un saint. Êtes-vous content? Ça en fait, hein? Mais c'est ce qu'on est, frères et sœurs. Il faut réaliser l'importance qu'on a, puis de rester regroupés, parce que c'est ensemble qu'on est une force pour s'encourager. Si je viendrais à l'Église tout seul, je trouverais ça plate qu'il n'y ait pas personne avec moi. Ça serait une église avec une seule personne, c'est pas une église. C'est rien qu'un fragment de l'Église. Parce que l'Église, c'est l'assemblée. Assemblée, c'est minimum deux ou trois personnes qui s'assemblent et disent, je suis au milieu de vous.
Amen.
Le commandement de l'amour que Jésus nous a donné a pour but de vivre pour l'Église, pour nous amener à vivre pour l'Église, que ça soit notre priorité, l'Église. Les frères et sœurs, dans 1 Jean 3, 16, ça nous dit, « Nous avons connu l'amour. L'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. » Jésus, là, il avait une vision pour son Église, au point de donner sa vie pour l'Église. Fait quand il dit, on a connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est ça qui est écrit. Autant que Jésus a donné sa vie pour ses églises, pour son église, autant que nous, on doit donner notre vie pour les frères. J'ai pas entendu un amen.
Amen.
Voyez-vous ce qui est l'intérêt de Jésus? Faire passer l'église en premier, bâtir son église, donner sa vie pour son église. Puis dans le commandement de l'amour, il dit, donner, nous autres aussi, on doit donner notre vie pour les frères. Ceux qui abandonnent l'Église, ils ont perdu de vue la vision de Jésus. Parce que grandir dans le Seigneur, c'est pour t'amener à penser comme Jésus, à être comme Jésus. Jésus avait une vision totale pour l'Église. Enfin, un chrétien ne peut pas abandonner. S'il réalise qu'il se refroidit, il faut qu'il se reprenne en main et dit, hey, il faut que je revienne à l'Église. C'est ça qui est le plan central de Jésus, l'Église. Puis ça nous le dit dans Hébreux 10, 25, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Faut rester connecté, c'est notre place. On est sauvé, mais c'est là qu'on puise la force qu'on a besoin pour avancer. » Puis ça nous dit dans ce verset-là, « Mais exhortons-nous réciproquement. » Ça veut dire, entre frères et sœurs, faut s'encourager, se bénir, se prier les uns pour les autres, qu'on en soit encouragé d'être là, à l'Église. Amen.
Amen.
Le but de l'Église, c'est de travailler ensemble pour faire avancer le royaume de Dieu. Prions. Seigneur, je te remercie de ta parole qui nous enseigne, qui nous révèle l'importance de l'Église. Seigneur, donne-nous de se responsabiliser face à ton Église, qu'on prenne notre responsabilité, qu'on prenne notre part, ce à quoi tu nous as appelés à être par les dons que tu nous as donnés, à ce qu'on puisse s'investir dans ton Église, dans les frères et sœurs. Donne-nous qu'on soit connectés les uns avec les autres, en pleine communion, sans division, sans restriction, qu'on puisse s'aimer les uns les autres et vivre pour ton Église. Seigneur, conduis-nous dans cette dimension de l'amour. Merci de ce que tu vas faire, Seigneur. Je te le demande dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.